Alors, c'est l'heure d'accueillir mon grand ami virtuel et grande vedette du de la station communautaire de télévision de Saint-Jean-sur-Richelieu. Monsieur, excusez-moi, Maître Gay, Jean-François, salut.
Salut, Jacques.
Ça va?
Ah, ça va bien, mais à la télé communautaire du Haut-Richelieu, j'y vais deux fois par année, là. Faut pas...
Ah, pas plus que ça.
Ah, ben non.
C'est parce que quand tu y vas, ça ne passe pas inaperçu. Et de quoi vous avez jasé?
Ah, on a jasé du guide de l'auto.
Oui.
Et puis, c'est pour ça que je vais faire toujours mon petit tour là-bas en septembre et aussi en janvier pour parler du Salon de l'auto de Montréal.
Et où sont leurs studios, à Saint-Jean même? Ou...
Ah, sur la rue Richelieu.
Sur la rue
c'est
Richelieu.
C'est des très beaux studios. Hein?
Ça doit, ben oui. C'est, on se prive de rien aujourd'hui.
Non, non, ouais. C'est diffusé à ma TV, mais je pense qu'il faut être un résident là, de la région de Saint-Jean, la grande région de Saint-Jean-sur-Richelieu.
Oui.
Ouais.
Mais je salue les gens qui travaillent dans ce genre de station de télévision communautaire qui font de l'excellent travail.
Ben, je pense
que... Souvent, il y en a qui passent par là, à un moment donné, ils vont chercher une grande notoriété.
Ben, Éric Latour, l'animateur là, de l'émission ÉricLatour.com, je pense que tu
avec
le connais.
Avec qui j'ai travaillé dans le temps à CKC,
oui. Donc, c'est lui qui est le chef d'orchestre, là, si on veut, l'animateur là, de la station. Il y a d'autres émissions, mais celle où je participe, là, que je collabore, c'est celle-là.
C'est un peu comme le Paul Arcan, quoi. C'est
Le Paul Arcan de Saint-Jean.
C'est ça, exactement. Bien, alors, pas mal d'essais routiers cette semaine. On va commencer avec, la BMW.
Avant, je voulais te demander, as-tu été marché
pour
la marche du climat?
Non. D'ailleurs, j'étais pas là pour commenter tout ça. Il faut dire que c'était très, très impressionnant. Je sais pas, est-ce que c'est 300 000 ou 500 000? En tout cas, il y avait beaucoup de monde. Puis pas seulement à Montréal, mais il y en avait également dans plusieurs villes de la province. Alors, c'est beau de voir ça. C'est rassurant de voir ça. Maintenant, on verra ce que ça va donner. Évidemment, c'est des jeunes et c'est pour ça que je suis bien, bien impressionné comme tout le monde. Mettre de la pression sur les plus vieux, sur les décideurs. Alors, on verra de quelle façon les décideurs, les gouvernements vont prendre tous ces conseils et on verra ce que ça va éventuellement donner concrètement. Parce que là, on propose des changements, mais tu sais très bien que ça se fait pas du jour au lendemain. Alors, je sais pas si je serai assez vieux pour les constater, s'il y aura constaté en fait une amélioration de l'état de la planète, mais en tout cas, oui, c'est sûr que comme tout le monde, j'étais très impressionné de voir ça. Puis ça s'est bien passé également, on a manifesté intelligemment, mais comme je te dis, on va attendre. Alors, on s'en parlera dans 5 ans, voir s'il n'y a pas par hasard des changements.
Mais la foule la plus impressionnante que moi j'ai vue, là, c'était le lendemain, tu te rappelles, à Saint-Jean-Baptiste, c'était le lendemain de l'échec du lac Meech.
Mm-hmm.
Je pense que c'était la veille à Saint-Jean-Baptiste, ou presque. Et je pense qu'il y avait, là, il y avait vraiment 500 000 personnes sur la rue Sherbrooke pour la parade, comme on dit, de la Saint-Jean-Baptiste. Écoute, il y avait du monde en Moses. Oui. Oh, c'était extraordinaire, c'était incroyable. Mais cela dit, moi, je voulais juste faire un petit clin d'œil à la mairesse là, de Montréal. Madame Plante est allée à l'ONU, parfait, parler du réchauffement climatique, blablabla. Montréal. Mais tu sais que Montréal, si on veut combattre les émanations de CO2, faudrait qu'ils s'enlèvent les doigts dans le nez puis qu'ils commencent à nous donner le droit de tourner à droite sur les feux rouges.
Ah oui, oui.
Parce qu'on est une des rares, je pense qu'on est la seule grande ville en Amérique du Nord où on n'a pas le droit encore de tourner sur le feu rouge. Moi, j'ai pas de problème, genre, qu'on n'ait pas le droit de tourner sur les feux rouges dans le centre-ville de Montréal. Mais dans l'ouest de Montréal, dans l'est, c'est pas le centre-ville, là.
Mm-hmm.
Puis les gens n'ont pas le droit de tourner sur le feu rouge. Puis on s'entend, si tu restes une minute ou deux sur un feu rouge, ben tu fais des émanations de CO2.
Oui, oui. Alors, non, mais qu'ils le fassent sur certaines artères très achalandées, où il y a beaucoup de circulation, non seulement la circulation automobile, mais... piétonnière également, là, beaucoup de piétons, je peux comprendre, mais c'est vrai, je pense que quand on arrive à Montréal, c'est interdit partout,
ouais.
Et moi, des fois, je sors d'ici le matin, là, puis je me dis, j'attends de tourner à droite, puis je me dis, il n'y a pas personne, il me semble que je devrais pouvoir tourner en toute sécurité.
Effectivement.
Puis non, mais je suis obligé d'attendre.
Alors... Ça, c'est une lacune.
Ah oui, c'est vrai.
Puis je pense qu'ils devraient étudier ça sérieusement si on veut diminuer là, les émanations polluantes.
Pour la première fois qu'on en parle, on verra si éventuellement il y a quelqu'un qui va comprendre, comme dirait l'autre, le gros bon sens.
Et voilà.
Alors donc, essai routier, d'abord la BMW Série 3. C'est comme une berline compacte.
C'est une berline compacte de luxe. Pourquoi qu'on parle de cette voiture-là? T'sais, c'est sûr que c'est une voiture de luxe, mais je pense qu'on ne pouvait pas passer à côté parce que pour 2019, hein, 2020 également, c'est un nouveau modèle, nouvelle génération, la 7e génération. Il y a des modèles comme la BMW série 3, c'est des modèles phares pour un constructeur. BMW, c'est sûr qu'ils vendent des VUS, on vend des cabriolets, mais la voiture emblématique de BMW, c'est la série 3. C'est un modèle qui a été dévoilé en 1975. Et c'est un peu la Honda Civic pour Honda, hein, un peu la Civic de chez Honda, ou encore la Mustang chez Ford. Je vous dirais, la série 3, c'est une voiture qui est quand même populaire partout dans le monde, surtout en Europe. Chez nous, si on regarde les ventes, ben, par rapport à l'an dernier, si on regarde les chiffres de 2018 par rapport à 2019, les ventes au Québec, notamment, ont diminué quand même de 17 %. Dans l'ensemble du Canada, on parle de 19 %. Pourquoi? Ben, c'est parce que c'est justement que quand les ventes sont en diminution comme ça, Jacques, ben, c'est le temps qu'un manufacturier relance les ventes en présentant une nouvelle génération. Et surtout que les VUS, on s'entend, font beaucoup de ravages là, dans le clan des berlines. Donc, pour 2020, la berline revient. Du côté du cabriolet, maintenant, c'est le cabriolet, c'est la série 4. Hein. Il n'y a plus de série 3 cabriolet, c'est la série 4 aussi qui a été redessinée. La version familiale, qu'on appelle Touring, aussi va arriver prochainement, la nouvelle génération. Et quant au modèle coupé, là, le Grand Coupe, ben là, ça va être du côté de la série 4. Cela dit, ben là, pour l'instant, il y a deux motorisations. Les deux moteurs, c'est deux versions qu'on a essayées. Donc, la 330i X-Drive, ça veut dire que c'est une version à traction intégrale. Vous avez un 4 cylindres turbo 2 litres. La puissance fait un léger bond. Maintenant, la puissance est de 255 chevaux. Je vous dirais que c'est amplement suffisant. C'est jumelé à une boîte automatique à 8 rapports. Vous avez également un modèle qu'on a essayé qui est assez flamboyant, la M340i X-Drive avec un 6 cylindres 3 litres turbo, 382 chevaux. C'est sûr qu'il n'y a plus de moteur diesel depuis un petit bout de temps dans la série 3. Par contre, il y a une version hybride rechargeable qui s'en vient. C'est peut-être une question de mois, peut-être, je vous dirais, 3 à 12 mois avant que ce modèle-là arrive chez nous. Et il y a aussi la fameuse M3 qui est de retour, 6 cylindres, 3 litres turbo, qui développe 425 chevaux ou encore 457 chevaux. Mais ça, c'est vraiment dans une classe à part. Donc, au niveau de BMW, Jacques, je te dirais, par rapport à la génération précédente, mais la voiture est légèrement plus longue. On parle d'un empattement qui a été étiré de 3 cm. Les voies avant et arrière ont été élargies. Le châssis est plus rigide de 25 %. La suspension aussi est plus solide. Hein, ça prend une suspension solide pour rouler sur les routes du Québec. Et le coffre aussi gagne un petit peu en volume. Là. On parle d'un volume maintenant de 481 litres. Par rapport à 447 autrefois. Et ce qui est agréable dans la série 3, c'est que la banquette arrière est divisée 40-20-40. Donc, on peut rabattre le centre de la banquette arrière. Ça permet de, je ne sais pas moi, glisser des skis, des planches à neige ou encore, moi, je ne sais pas moi, des objets longs qu'on vient d'acheter, je ne sais pas, en quincaillerie. Puis ça fait en sorte que...
Des 2x4.
Des 2x4 aussi. Puis pourquoi pas? Ça permet à deux passagers arrière de prendre place. Donc, on parle de ça, c'est parce que les gens disent « Ah, on va acheter un VUS. » Vous allez acheter un VUS, ça va coûter plus cher à l'achat, ça va consommer plus de carburant. Alors que si vous achetez une voiture qui est bien aménagée, qui est très bien configurée, parce que les banquettes arrière se rabattent, ben, vous pouvez des fois là, dépanner. C'est sûr, vous ne pourrez pas transporter un fauteuil, un divan, mais une causeuse plutôt. Mais vous pourrez quand même, comme tu dis, là, on fait des blagues, mais on peut quand même transporter une coupe de 2x4, de 2x3, un escabeau.
Coudonc, tu es en train de rénover. Là.
Non, non, mais des fois, on donne des idées aux gens. Hein, parce que aux gens.
Oui.
C'est ça. Alors, aussi, au niveau de l'aménagement intérieur, c'est sûr que la série 3 avait vieilli par rapport à la Audi A4, sa principale rivale, la Mercedes classe C. Là, les stylistes ont réaménagé l'intérieur. On aime ou on n'aime pas, mais là, c'est vraiment... c'est des nouveaux... Tu sais, les fameux cadrans au niveau de l'instrumentation, là, les cadrans, là, ça, c'est out. fameux cadran rond. Maintenant, c'est des écrans. Si tu regardes au niveau de l'écran central, un écran tactile, l'écran tactile mesure, j'avais une mesure ici, je pense, ça mesure 13 ou 14 pouces. Puis l'écran central au-dessus du tableau de bord, c'est 10 pouces. Mmh. Donc maintenant, là, c'est vraiment... c'est un affichage, là, cherche le mot, là, digital. Digital.
Oui.
Ouais, c'est ça.
C'est bon.
Donc, c'est toujours une très bonne tenue de route. La consommation est à la baisse parce que la voiture est plus légère d'une centaine de livres, une cinquantaine de kilos par rapport à la génération précédente. Plus logeable, plus confortable. Donc, c'est un véhicule que je recommande.
Parfait. Alors voilà pour la BMW Série 3. Tu voulais maintenant aussi nous parler de la Nissan Micra, c'est ça?
La Nissan Micra.
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 Oui, qui est très abordable.
Très abordable, parce que tu sais que dans les voitures les moins chères actuellement sur le marché, on a la Chevrolet Spark et on a la Nissan Micra qui se vend, je te dirais, 10 000
$ 10 000?
10 000 $ Okay. Mais on s'entend qu'à ce prix-là, vous avez...
Il n'y a pas de roues.
Il y a des roues, il y a des pneus, il y a un volant, il y a des sièges, il y a une radio, sauf qu'il n'y a pas de climatiseur, il n'y a pas de vitre électrique non plus.
Alors, tout ça vient en option.
Tout ça vient... Il faut changer de version. Il faut prendre une version qui est beaucoup plus dispendieuse. Il faut rajouter peut-être un 4 000 $ additionnel.
Mais même à 14 000, 15 000, pas cher.
C'est pas cher. Mais à 10 000... Il n'y a pas beaucoup d'équipements, mais il n'y en a pas beaucoup non plus chez les concessionnaires.
On va y revenir après la pause. On va penser aux options qu'on pourrait peut-être installer sur notre Micra 2019. On fera une pause, donc il est presque minuit 28, de retour après ceci.